Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi
Écoutez.
soit-il.
Le Seigneur est proche de quiconque l'invoque avec sincérité. Mes très chers frères, depuis le début de l'Avent, il y a 4000 ans que nous attendons la réalisation de la promesse faite à notre premier Père au sortir du paradis terrestre dont il avait été exilé de par sa faute. Si durant les 3 premiers dimanches de l'Avent, nous nous sommes résolument, avec l'aide de Dieu, préparés à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, parvenus au 4e dimanche de l'Avent, eh bien, nous voyons que les textes par lesquels l'Église l'a formé expriment les craintes de l'Église et les craintes de toute âme, aussi de tout chrétien, qui n'est pas dans l'illusion d'elle-même vis-à-vis d'elle-même. Cette crainte peut se formuler ainsi: pourquoi le Seigneur tarde-t-il? Qu'est-ce qui semble mettre un frein à son avènement? Il y a dans ce 4e dimanche de l'Avent beaucoup de joie. Nous saluons la Très Sainte Vierge Marie dans l'offertoire, déjà comme l'ange, nous sommes très proches de l'avènement de notre Seigneur, et pourtant le temps nous est encore donné par l'Église de méditer sur certaines choses qui, sinon dans le temps de l'histoire, du moins dans le temps de notre vie, eh bien, retarde l'avènement de notre Seigneur. C'est ce que nous allons voir avec l'aide de Dieu. Nous avons plusieurs choses à voir aujourd'hui. Premièrement, nous allons nous poser la question: pourquoi nous avons besoin de rien moins que de la force même de Dieu, celle qui a ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts? En deuxième point, nous verrons comment on met à profit cette force, mais aussi comment on s'y soustrait. Et nous terminerons par un troisième point en nous posant la question: comment détester nos péchés, comment préparer la voie au Seigneur. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Écoutez cette oraison que l'Église a mise dans notre bouche tout à l'heure. Réveillez votre puissance, Seigneur, et venez. Employez votre grande force à nous secourir pour qu'une indulgente pitié vienne hâter par votre grâce ce qu'arrêtent nos péchés. Vous qui êtes en Dieu, vivez et régnez, etc. À nouveau, et pour la troisième fois durant ce temps de l'Avent, l'Église fait usage de cette invocation « Excita Quosumus Domine ». Réveillez, s'il vous plaît, Seigneur. Nous avions vu dans le premier dimanche de l'Avent qu'il s'agissait de réveiller la puissance du Seigneur, comme aujourd'hui. Dans le deuxième dimanche de l'Avent, il s'agissait de réveiller nos cœurs. Et alors que notre Seigneur va bientôt venir, mais sous un certain rapport, nous ne le savons pas, nous sommes encore dans l'attente, nous ne savons pas quand il va venir, nous disons encore, de par l'inspiration de l'Église et du Saint-Esprit, réveillez votre puissance. Excita quosumus domine potentiam tuam et veni. Réveillez votre puissance et venez, Seigneur. Que signifie, encore une fois, posons-nous encore la question, même si nous avons déjà vu ces choses-là auparavant, peut-être que vous les avez oubliées, peut-être qu'elles ne sont pas encore rentrées dans vos mœurs de chrétien, dans votre habitude de prière, dans votre habitude de lutte contre vous-même, mes très chers frères. Excita quosumus domine. Excita, donc, réveillez. Excité au sens de, comme quand on excite un animal féroce à l'attaque, on demande au Seigneur qu'il fasse surgir sa puissance. Et le Seigneur est bien sûr tout en le Dieu est tout en acte, comme disent les théologiens. Il n'y a rien en puissance en lui, bien entendu, mais pour nous, pauvres créatures, il faut que ce Dieu qui est tout le temps tout ce qu'il est se manifeste tel à nous, mais qui se manifeste d'une façon salvifique. C'est pour ça, comme nous l'avons dit, nous le répétons chaque fois et chaque année, il y a quelque chose de dangereux, mais de nécessaire, évidemment, à prier Excita Quosumus Domine. Nous demandons à Dieu de réveiller sa puissance, mais pourquoi faire? Donc, Excita ici a le sens de réveiller, faites intervenir dans le temps votre grâce efficace. Excita quosumus domine potentiam tuam et veni, excitez dans le temps, Seigneur, faites intervenir dans le temps votre grâce efficace, c'est-à-dire votre puissance, comme nous allons le voir, et veni et venez, c'est-à-dire ne l'envoyez pas simplement de loin, de peur que comme comme par exemple une balle qu'on tirerait ou un boulet de canon qu'on tirerait de trop loin arriverait, disons, finalement presque sans force, très très loin de son point de départ, nous demandons au Seigneur non seulement de réveiller, de faire intervenir dans le temps sa grâce efficace, mais de venir lui-même pour l'appliquer. Donc cette grâce est vraiment efficace parce que Dieu lui-même ne se contente pas de l'envoyer et de laisser les hommes en disposer, il vient lui-même l'appliquer. Sous cet angle-là, la grâce efficace, c'est Dieu lui-même agissant par sa venue. Négativement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, excita que sumus domine et veni, réveillez Seigneur votre puissance et venez vous-même l'appliquer, ça signifie ne nous laissez pas à nos propres forces. Être veni, ça signifie aussi, puisqu'il s'agit du Dieu ici applicateur de sa propre puissance, ce qui est quelque chose, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mes très chers frères, mais il y a quelque chose d'extrêmement bénin, d'extrêmement doux, d'extrêmement bon de la part de Dieu, en tout cas Dieu tel qu'on l'aborde par la prière que l'Église nous met dans la bouche aujourd'hui, parce qu'un jour Dieu viendra, et ce ne sera pas pour faire l'application salvifique de sa puissance, ça sera pour vaincre tous ses ennemis, pour les forcer à se mettre à genoux et pour les envoyer en enfer, comme une juste rétribution de leur impénitence. Donc qu'est-ce que ça signifie être véni? Puisque nous avons demandé à Dieu de faire intervenir sa grande puissance dans le temps, être véni, ça signifie proportionner votre grâce à notre faiblesse, proportionner votre grâce à notre impuissance, et surtout à notre mauvaise volonté, ce qui n'est pas sans danger, encore une fois. Si nous sommes comme quelqu'un qui se noie, et nous tendons la main vers quelqu'un qui est sur la berge, et nous lui disons « venez vite m'aider ». Ça, c'est une chose qui est impliqué dans ce que nous demandons à Dieu. Mais nous disons quelque chose de plus, et qui n'est d'une certaine manière, il n'y a rien de comparable sur le plan humain. C'est-à-dire que nous disons à Dieu, proportionnez votre grâce à notre mauvaise volonté. C'est-à-dire que, Seigneur, nous confessons que nous résistons à votre grâce, car c'est malheureusement là une des capacités de l'homme, de résister à la grâce de Dieu. Mais nous lui disons, venez au secours de notre mauvaise volonté, comme ce père de cet enfant démoniaque auquel notre Seigneur disait, tout est possible à celui qui croit. Et ce père lui a dit, je crois, Seigneur, venez en aide à mon incrédulité, venez en aide à mon manque de foi. Nous disons, Seigneur, venez nous aider, et venez nous aider malgré nous, à cause que nous savons que nous sommes de très mauvaise volonté. Si nous n'étions pas de mauvaise volonté, mes très chers frères, si j'ose dire, et nonobstant l'ordre de la liturgie, mais notre Seigneur, la fête de Noël se serait déjà produite bien plus tôt dans l'Avent. Mais nous avons résisté à Dieu, nous avons été de mauvaise volonté. Si l'Église ne nous donne pas à fêter un seul dimanche de l'Avent et immédiatement après la fête de Noël, mais qu'elle nous fait passer quatre dimanches de l'Avent, c'est non seulement pour figurer tous les millénaires qui ont précédé notre Seigneur et dans lesquels les justes l'ont attendu, mais c'est aussi pour nous montrer, sous tout à fait un autre rapport, mais complémentaire, que la dureté de notre cœur empêche notre Seigneur de venir, et ce n'est pas des choses accidentelles, ou ce n'est pas que notre Seigneur a mieux à faire ailleurs, c'est que d'une certaine manière, il ne vient pas en nous, tant que nous ne lui demandons pas de réveiller sa puissance, et de venir par sa grâce efficace qu'il applique lui-même personnellement en nous, venir en aide à notre mauvaise volonté. Voilà pourquoi nous disons au Seigneur, d'une façon encore plus précise, dans la suite de l'oraison, « Et mania nobis virtute succurre », ce qui s'est traduit par « Et secourez-nous par votre grande force ». Une seule chose, la seule chose qui s'oppose à Dieu, c'est la mauvaise volonté. Rien ne s'oppose à Dieu. Rien ne s'oppose à Dieu absolument, bien sûr, puisque même la mauvaise volonté ne s'oppose pas absolument à Dieu. Mais s'il y a quelque chose qui s'oppose à Dieu, à l'avènement de Dieu, à la réalisation du plan de Dieu, c'est bien la mauvaise volonté. C'est pour ça que dans les litanies des saints, que nous récitons, que nous chantons, spécialement au début de l'année, enfin au printemps, lors des rogations, nous disons « Délivrez-nous, Seigneur, de toute mauvaise volonté ». Alors, il s'agit bien sûr de la mauvaise volonté de nos ennemis, la mauvaise volonté des ennemis de l'Église, nos ennemis propres, etc., bien entendu, mais c'est surtout et avant tout, et même si les ennemis de l'Église et nos ennemis propres n'existaient pas, nous serions caractérisés par la mauvaise volonté. Et nous demandons à Dieu, délivrez-nous, ne nous livrez pas à la mauvaise volonté, délivrez-nous de la mauvaise volonté. La seule chose qui s'oppose à Dieu, voyez-vous, mes frères et chers frères, c'est la mauvaise volonté, cette déviation de la volonté qui est le fruit de la chute de notre premier Père et qui nous a transmis cette mauvaise volonté, il nous a transmise de telle sorte que, alors que l'homme avait été fait droit, en état d'innocence, ses enfants, ses descendants dont nous sommes, sont tous marqués par la mauvaise volonté. C'est-à-dire que nous avons une volonté, nous avons un libre arbitre, ces choses-là ne sont pas réduites à néant, comme le voulaient certains hérétiques qui disaient que le libre arbitre n'existait plus, et c'est une aberration de dire cela. Il existe, mais malheureusement, il est tellement blessé, tellement affaibli, tellement dénaturé, qu'il ne veut plus que ce qui est mauvais. Et ce qui est mauvais, il le veut spontanément. Et qu'est-ce qui est mauvais? Eh bien, c'est-à-dire tout bien qui n'est pas la volonté de Dieu, qui ne résulte pas ou qui n'est pas en vue par la volonté de Dieu. C'est-à-dire que quand bien même Dieu voudrait un bien pour nous, mais que ce n'est pas le moment, si nous voulons, nonobstant la volonté de Dieu, ce bien, alors même que Dieu prévoit de nous le donner plus tard, c'est un mal. C'est la mauvaise volonté qui fait que nous nous opposons à la grâce de Dieu, à la volonté de Dieu, à la volonté divine qui est notre salut. Pour vaincre cette mauvaise volonté, qui finalement est la seule chose, est notre seul ennemi véritablement, pour vaincre la mauvaise volonté, parce que Dieu triomphe de la mauvaise volonté chaque fois qu'il le veut, et si la mauvaise volonté, et j'ouvre une petite parenthèse pour vous dire, mes très chers frères, s'il semble que la mauvaise volonté de l'homme s'oppose au dessein de Dieu, c'est que tout simplement Dieu laisse l'homme dans sa mauvaise volonté, et que la mauvaise volonté de l'homme qui s'oppose au dessein particulier de Dieu s'accorde totalement et réalise même le dessein général de Dieu. Les damnés en enfer, qui sont pleins de mauvaise volonté envers Dieu, louent Dieu et glorifient la justice de Dieu. Or, il se trouve que Dieu, pour une raison mystérieuse, veut vaincre et triompher dès le temps de cette mauvaise volonté chez certains, afin de leur donner de participer positivement à sa volonté et ainsi de se sauver. Pour vaincre donc la mauvaise volonté, eh bien, mes très chers frères, que faut-il? Une grande bonne volonté, il faut tirer de son fond des bonnes choses, il faut s'exciter soi-même au bien par la contemplation du bien, un petit peu comme les philosophes stoïciens pouvaient le faire. Eh bien non, mes très chers frères, il faut quelque chose d'extérieur à nous-mêmes pour vaincre la mauvaise volonté. Il ne faut pas moins que la puissance même qui a ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ des morts. D'ailleurs, c'est exactement ce que nous lui disons. Puisque, en réalité, si vous regardez bien la finale de cette oraison, nous nous adressons au Christ. Vous qui êtes en Dieu, vivez et régnez avec Dieu le Père en unité du Saint-Esprit dans les siècles des siècles. Réveillez votre puissance, Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, et venez, employez votre grande force. Qu'est-ce que c'est que cette grande force? Est-ce que c'est la grande force par laquelle notre Seigneur a triomphé de la tempête? Non, c'est une force petite. Est-ce que c'est une force par laquelle il a chassé les démons? Si j'ose dire, c'est une force qui lui est naturelle puisqu'il est le maître des démons. Est-ce que c'est la force par laquelle il a multiplié les pains? Rien de plus facile pour celui qui a créé les pierres et qui a créé les poissons et qui a créé les pains. Notre Seigneur a fait preuve d'une grande force, si j'ose dire, au sens plein et total du terme, lorsqu'il s'est ressuscité lui-même. C'est ça le grand miracle de notre Seigneur. Élie et Élisée ont multiplié la nourriture. Ils ont ressuscité les morts. Nous savons que l'Église chasse les démons, que les exorcistes dans l'Église chassent les démons de par la puissance de Dieu. Nous avons vu tous les miracles que Dieu a fait par son Fils et aussi par ses saints. Mais il se trouve que le grand miracle, le miracle des miracles, que seul notre Seigneur Jésus-Christ, qui est vrai Dieu, le Fils éternel de Dieu, a accompli, c'est qu'il s'est ressuscité lui-même. Bien sûr, Dieu l'a ressuscité, c'est vrai, puisque le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont un seul Dieu. Donc, ce que le Père, ce que le Fils, ce que le Saint-Esprit fait, Dieu le fait. Mais il se trouve que les théologiens nous disent que si on dit à proprement parler que Dieu le Père a ressuscité son Fils d'entre les morts, par ailleurs, son Fils s'est ressuscité lui-même d'entre les morts, puisqu'il n'avait pas à subir la mort, puisqu'il s'est livré volontairement et il a repris volontairement sa vie. Sa volonté est sans limite. et sa volonté est sans adversaire. Et c'est pour cela, comme nous l'avons dit, qu'il viendra un jour juger les vivants et les morts, et que tout genou fléchira dans le ciel, sur la terre et dans les enfers. Mais ce jour-là, bienheureux ceux qui auront déjà, nous disent les auteurs, ceux qui auront déjà fléchi le genou volontairement. Mais comment fléchir le genou volontairement devant Dieu si nous sommes en proie à notre mauvaise volonté? Il nous faut donc, mes très chers frères, que notre mauvaise volonté soit rectifiée afin que nous puissions vouloir droitement. Et pour rectifier notre mauvaise volonté, qui est la seule chose qui s'oppose à Dieu, eh bien pour rectifier notre mauvaise volonté, il ne faut rien moins que la puissance qui a, par laquelle notre Seigneur Jésus-Christ lui-même s'est ressuscité d'entre les morts. C'est ce que disent tous les auteurs. Tous les commentateurs de tous les siècles de l'Écriture sainte nous disent qu'il ne faut pas moins que la puissance même qui a ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts pour ressusciter une volonté qui est aussi impuissante, aussi affaiblie, aussi dénaturée que celle de l'enfant d'Adam, qui est dominée et régie par la concupiscence. Il ne faut rien moins que la puissance de la résurrection. C'est pour ça que nous disons Et mania nobis virtute succuré, et par votre et de votre grande puissance, venez secourez-nous. Qu'est-ce que ça signifie succuré ici? Ça signifie porter secours. Porter secours en faisant ce que la faiblesse ne peut faire. C'est-à-dire en nous faisant vouloir librement et droitement. Ce n'est pas Dieu, à strictement parler, qui veut en nous, parce que sinon notre volonté n'aurait pas à exister. Et on se demanderait pourquoi est-ce que Dieu nous aurait donné une volonté alors. Mais en nous restituant la liberté, et en venant lui-même, en nous appliquant par sa grande force, qui est la force de la résurrection, la résurrection en quelque sorte, la restauration, la rectification de notre volonté, en faisant que notre mauvaise volonté devienne une bonne volonté, Dieu nous donne de vouloir librement et droitement. Ainsi, mes très chers frères, la grande force de Dieu se manifeste à salut. Par quoi donc? Eh bien, par ce qui est évoqué par la suite de l'oraison, par l'auxilium gratiae tuae, par la grâce efficace, l'aide de votre grâce, qui n'est pas une petite aide, mais qui est la grâce efficace, qui est l'application de quoi donc? De l'amour et du désir salvifique de Dieu sur une âme qu'il a donnée à son Fils. C'est-à-dire que lorsque Dieu réveille sa puissance et qu'il vient, et qu'il met la force même qu'il a utilisée pour ressusciter son Fils, ou que le Christ a utilisée pour se ressusciter lui-même, sa force native, sa force divine, lorsqu'il vient et qu'il rectifie notre volonté, mes très chers frères, nous bénéficions de l'aide puissante de la grâce efficace, qui n'est autre que l'application de l'amour et du désir salvifique de Dieu sur une âme qu'il a donnée à son Fils. Il y a une chose dans la deuxième partie de l'oraison qui doit nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes, une leçon sur nous-mêmes. Ut per auxilium gratiae tuae, afin que par l'auxiliation, par l'aide, le secours de votre grâce, quod nostra peccata prepediunt, ce qu'entrave nos péchés, n'allons pas plus loin, nos péchés. Nous parlons ici de nous négativement, nous avons jusqu'ici parlé de nous négativement, nous avons parlé de notre mauvaise volonté qui nécessite rien moins que l'intervention bénéfique de la puissance de la résurrection de notre Seigneur pour rectifier notre volonté. Et maintenant nous disons positivement que nous ne sommes que péchés. Nous ne sommes que péchés, mes très chers frères, de nous-mêmes, nous ne pouvons tirer, de notre mauvaise volonté, de par notre mauvaise volonté, nous ne pouvons tirer que le mal. Et tout le bien que nous le faisons grâce au secours constant d'une grâce qui n'est pas une petite grâce, mais qui est la grâce efficace. Peccata nostra, eh bien, mes très chers frères, qu'est-ce que nos péchés? C'est les réalisations de notre concupiscence, c'est l'amour de soi désordonné, c'est le désordre dans l'action, c'est tout ce qui s'oppose à la volonté divine, que chacun s'éprouve soi-même pour savoir en quoi il est concerné. Ce que nos péchés, donc, c'est-à-dire ce dont nous sommes capables nous-mêmes, ce qui est à la fois rien du tout, puisque le péché n'est que la transgression de la loi, donc ce n'est pas une substance en soi, et en même temps, le péché manifestant notre mauvaise volonté, paradoxalement, s'opposent tellement à Dieu qu'on dit qu'ils prepediunt, c'est-à-dire qu'ils s'opposent, qu'ils entravent. Ils entravent quelque chose, ils empêchent. Ils empêchent quoi? Eh bien, l'Église ne nous en parle pas. Elle utilise simplement le pronom relatif quod, quod nostra peccata prepediunt, ce que nos péchés empêchent, ce qu'ils entravent. Quoi donc? Qu'est-ce que c'est que ce quod, que ce que? Eh bien, ce n'est rien moins, mes très chers frères, si nous prenons en conscience la force qui a ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts, s'appliquant pour nous sous la forme de la grâce efficace d'un Dieu qui réveille sa puissance et qui vient nous l'appliquer à nous-mêmes, qu'est-ce que c'est? Ce ne peut être rien d'autre que notre salut. Quod ici, c'est notre salut. Et notre salut, quod, est empêché par nos péchés. Notre mauvaise volonté est telle qu'il n'y a qu'une seule chose qui empêche notre salut, et ce n'est pas le monde mondain qui s'agite devant nous pour nous séduire, ce n'est pas non plus le diable qui rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer cherchant une occasion pour nous happer et nous entraîner avec lui par jalousie dans cet enfer éternel auquel il a été condamné dès son premier et unique péché. Ce n'est pas tellement tout ceci. Tout ceci vient aider l'ennemi principal de notre salut. L'ennemi principal de notre salut, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes tels que nous nous aimons, produisant péché sur péché. Quod peccata nostra prepediunt. Et ce que nos péchés empêchent, indulgentia tuae propitiationis acceleret. Il faut donc prier contre soi-même, mes très chers frères, parce que nous sommes à nous-mêmes nos pires ennemis. Ce n'est pas les hommes qui sont nos ennemis, ce n'est pas le monde, ce n'est pas le démon, s'ils sont des ennemis secondaires. Notre premier ennemi, l'ennemi primaire en nous, c'est notre mauvaise volonté, c'est l'attachement que nous avons à cette mauvaise volonté, c'est l'attachement que nous avons d'une façon désordonnée à nous-mêmes, c'est l'attachement que nous avons à notre triple concupiscence, que nous savons si bien déguiser, parfois en piété, en pseudo-bonne volonté, que sais-je. C'est-à-dire notre salut, qu'empêche, qu'entrave nos péchés, eh bien, indulgentia tuae propitiationis acceleret, que l'indulgence de votre propitiation l'accélère. Qu'est-ce que ça signifie? Que l'indulgence de votre faveur, que l'indulgence, c'est-à-dire pas l'indulgence au sens humain et vulgaire du terme, c'est-à-dire la bonté, une bonté qui ne se lasse pas d'être bonne, une bonté qui ne se lasse pas d'aimer, une bonté qui ne se lasse pas de pardonner. Et c'est pour cela que cette prière est dans la bouche non pas de tous les hommes qui veulent se sauver, mais des chrétiens qui ont déjà reçu le baptême. L'indulgence de votre faveur, notre Père céleste est indulgent envers nous. Et bien souvent, mes très chers frères, nous abusons de cette indulgence. Bienheureux celui qui peut s'arrêter, de par la grâce de Dieu, d'abuser de cette indulgence, afin que l'indulgence de votre faveur, c'est-à-dire votre grâce souveraine, qui est la manifestation de votre amour, c'est ça l'indulgence de la faveur de Dieu. Ne voyons pas là un Dieu incapable de faire autrement que d'être bon envers nous. Voyons plutôt un Dieu qui met de côté sa colère pour l'amour de son Fils dont nous sommes membres, par le baptême, et qui nous l'applique, et qui ne cesse de nous l'appliquer par cette indulgente faveur, l'indulgence de sa faveur. Et bien que l'indulgence de sa faveur, c'est-à-dire cette bonté paternelle qu'il manifeste pour ceux qu'il aime, et bien accélérette, qu'elle l'accélère. Qu'est-ce que ça signifie? Comment est-ce que Dieu peut-il, par sa grande force, venant nous visiter, venant rectifier notre volonté, accélérer notre salut que nos péchés entravent, dont ils entravent l'avènement? Comment est-ce que Dieu peut accélérer notre salut? Eh bien, mes très chers frères, l'Église nous fait prier une prière absolument fondamentale contre nous-mêmes aujourd'hui. Qu'est-ce que nous prions? Nous prions, eh bien, qu'il force notre mauvaise volonté. Comme dit Bossuet, qu'il utilise cette douce violence. Vous voyez, bien souvent, quand on a une vision assez humaniste, et toute négative, et, enfin toute humaniste, toute moliniste, si j'ose dire, de la liberté humaine. On le dit, la liberté est quelque chose de tel humaine, est quelque chose de tellement sacré que Dieu se contente d'agiter les friandises de la grâce devant son nez afin qu'elle puisse se déterminer par elle-même à vouloir bien répondre positivement à Dieu. Tout ceci, c'est de l'hérésie. Tout ça, c'est de l'hérésie pélagienne, remâchée, redigérée, mais c'est du pélagianisme. Ça a été condamné par l'Église d'une façon solennelle. Il faut que Dieu, pour nous tirer de notre torpeur, pour nous tirer de la tyrannie de notre mauvaise volonté, nous fasse une violence, certes une douce violence, c'est-à-dire une violence qui aille en même temps dans le sens de notre nature. Il n'est pas naturel que nous ne voulions pas Dieu. Il n'est pas naturel que nous n'aimions pas Dieu de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toute notre âme, de toute notre pensée. Il n'est pas naturel que nous n'aimions pas notre prochain pour lui, comme lui pour l'amour de Dieu. Il n'est pas naturel que nous n'aimions pas nos ennemis parce qu'il nous le commande. Il n'est pas naturel que nous n'aimions pas obéir à sa loi et la mettre très sérieusement en pratique. Tout ceci n'est pas naturel. Et nous sommes tellement dénaturés que nous demandons, que l'Église nous fait demander aujourd'hui à nous, au bon Dieu, au Seigneur, notre Dieu, qu'il accélère, c'est-à-dire qu'il fasse violence, une douce violence, une violence divine, non pas humaine, mais une violence divine, à notre mauvaise volonté. Et comment le fait-il? Alors vous allez dire, ah bon, le bon Dieu est très doux, alors il ne fait que suggérer à l'oreille de ma volonté de se déterminer par elle-même. Mes très chers frères, ne soyez pas pélagiens. Lorsque nous prions que Dieu accélère ce que nos propres péchés entravent, eh bien, nous lui demandons de faire cette douce violence qui se manifeste dans son immense bonté par la crucifixion du vieil homme. Voilà comment Dieu nous applique la puissance même par laquelle notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts et que le Père a ressuscité son Fils d'entre les morts. En réduisant en esclavage l'esclavage de la foi et du Christ, le vieil homme, et en libérant en nous notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été imprimé sous la forme du caractère sacramentel qu'a imprimé dans notre âme le sacrement du baptême. C'est là la marque de Dieu dont sont marqués les élus dans l'Apocalypse. C'est la marque de Dieu à laquelle s'oppose et que singe la misérable marque de la bête. Ce qui retarde notre salut, mes très chers frères, eh bien, c'est notre refus de nous conformer à la volonté de Dieu. C'est notre amour pour notre mauvaise volonté. Alors, que ferons-nous? Que ferons-nous? Comment entrerons-nous dans l'esprit de l'Église? Et comment prierons-nous cette oraison, mes très chers frères, d'une manière différente que d'une manière qui ne fasse qu'exciter l'indignation de Dieu contre nous? Écoutons ce que dit Saint Paul dans l'Épître. Mes frères, que les hommes nous regardent comme les ministres du Christ et les dispensateurs des mystères de Dieu. Or, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Nous sommes tous, sous un angle général, chaque enfant de Dieu pris en particulier, nous sommes tous appelés à être les dispensateurs des mystères de Dieu, là où nous sommes, chacun selon son ordre, chacun selon son rang. La volonté de Dieu pour nous, dit l'apôtre, c'est notre sanctification. Or, vous le savez, nous le répétons assez souvent, le moyen et l'unique moyen de notre sanctification, chacun et tous en particulier, c'est les moyens qui sont mis à notre disposition par notre devoir d'État, et nos divers devoirs d'État. Et ce que l'on demande des dispensateurs, c'est-à-dire en réalité de tous, chacun à son niveau, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Comment est-on trouvé fidèle? Sinon, en commençant, avant même de faire quoi que ce soit, en commençant par s'insérer dans l'ordre des choses. Et vous savez très bien, et c'est une chose que tout champion de l'Église peut confesser, au moins dans son fort interne, il sait très bien que le défenseur de l'ordre est au-dessus de l'ordre. C'est-à-dire que le philosophe, Hegel, Kant, que sais-je, les grands philosophes qui ont structuré la modernité, étaient eux-mêmes au-dessus de la société dont ils définissaient les caractéristiques. Celui qui s'improvise milicien, autoproclamé est au-dessus de l'ordre social ou de l'ordre civil qu'il fait respecter. D'où les abus permanents que l'on voit quand ces choses-là se réalisent. On ne peut pas défendre l'ordre des choses, être pour l'ordre des choses, tout en étant au-dessus. Il faut en être participant, il faut y être inséré. Et pour s'y insérer, il faut se tenir à son devoir d'État et il faut se soumettre aux puissances légitimes. Nous en avons déjà parlé abondamment précédemment. Voyez-vous, il faut être trouvé fidèle, en commençant par s'insérer dans l'ordre des choses. Sinon, on est infidèle. Et quand bien même on serait le plus ardent défenseur de l'ordre des choses, on serait trouvé infidèle parce qu'on serait trouvé désordonné par rapport à cet ordre des choses. La venue du juge, du juste juge, notre Seigneur Jésus-Christ, doit nous détourner de la contemplation de lui-même, de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous devons prendre conscience que lorsque, mettons, nous sommes insérés dans l'ordre des choses et que nous pratiquons des œuvres de justice, nous devons faire très attention de ne pas nous satisfaire nous-mêmes d'avoir ces œuvres et de produire ces œuvres de justice. Pour produire ces œuvres de justice, ce qui n'est déjà pas évident, parce que la plupart du temps, les chrétiens ne sont pas dans la situation où ils peuvent véritablement produire ces œuvres de justice, mais quand bien même ils le seraient, ils devraient faire très attention et ne pas s'enorgueillir contre ceux qui ne sont pas dans la situation où ils peuvent produire des œuvres de justice. Tout le monde en prend pour son grade en réalité. C'est-à-dire que si je suis dans l'ordre et que par la grâce de Dieu, je produis des œuvres de justice, si je commence à m'approprier les œuvres de la justice, je ne fais plus que finalement, je ne fais plus que voler le bon Dieu, détourner la grâce à mon profit, au profit de mon orgueil, et je spolie Dieu de la gloire qui lui appartient. Nous devons nous détourner de la contemplation de nous-mêmes et nous faire craindre, et nous devons craindre nous-mêmes, la venue du juge doit nous faire craindre, à propos de nous-mêmes, que notre intention soit viciée. Quelle est mon intention lorsque j'accomplis mon devoir? Est-ce que c'est le fait de briller aux yeux des hommes? Est-ce que c'est le fait, donc, ce qui n'est pas bien? Et il se trouve que si je brille aux yeux des hommes parce que j'ai été fidèle dans mon devoir, eh bien je devrais m'exercer à l'humilité, ne pas recevoir comme un dû les louanges qui me seront, à juste titre, adressées. Mais si je suis fidèle pour l'amour de Dieu, alors, mes très chers frères, mon intention est droite. Si je suis fidèle pour l'amour simplement de ceux qui, avec lesquels j'ai une relation, ceux qui me sont inféodés, ou mon prochain qui bénéficie directement de mon devoir d'État, si c'est simplement pour l'amour de, on va dire, c'est déjà pas mal, c'est vrai, c'est déjà pas mal, c'est déjà assez rare, mais c'est un mal, pourquoi? Parce que ce n'est pas pour l'amour de Dieu. Pour l'amour d'eux, par l'amour de Dieu, pour l'amour de Dieu. Il faut qu'en tout, notre intention soit rectifiée par la recherche de Dieu en toute chose, par l'amour de Dieu seul. Et l'amour pour Dieu n'exclut pas, bien entendu, l'amour des proches, l'amour de la famille, l'amour du prochain, l'amour des frères, bien entendu. Au contraire, il en est plutôt une manifestation. Mais l'amour pour Dieu, la droiture de l'intention, se manifestera, et là, elle comme un révélateur infaillible, quasiment infaillible, si on peut dire, cet amour pour Dieu se manifestera ou ne se manifestera pas lorsque ceux que j'aime seront ingrats envers moi. Et alors je serai mortellement déçu que les efforts et la fidélité dont je fais preuve dans mon devoir d'État vis-à-vis de telle personne que j'aime, eh bien ne fait pas l'objet d'une grande reconnaissance. Et c'est là où nous devrons dire, eh bien Seigneur, on est ingrat envers moi, et pourtant, je l'ai fait pour l'amour de vous, et je ne m'en plains pas. Parce que c'est aussi comme cela que vous purifiez mon intention, ou que vous révélez ma mauvaise intention, l'impureté de mon intention, et que vous me perfectionnez selon le modèle de notre Seigneur Jésus-Christ. Seul l'amour de Dieu, qui doit être le motif de nos actions dans l'ordre, eh bien, est quelque chose qui empêche notre attention d'être viciée. Un amour de Dieu qui va jusqu'au mépris de soi, dit notre Père, jusqu'au mépris de soi, l'amour de Dieu qui va jusqu'au mépris de soi, constitue l'intention droite. La rectitude, mes très chers frères, de nos intentions est conditionnée par, bien entendu, nous l'avons dit, l'insertion dans l'ordre, et par l'amour de Dieu par-dessus toute chose, jusqu'au mépris de soi inclusivement. C'est pour cela que saint Paul dit, c'est pourquoi ne jugez point avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière les choses cachées dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Si nous voulons véritablement que la grâce de Dieu vienne et réformant notre mauvaise volonté, nous donne cette bonne volonté, nous restitue plus précisément cette bonne volonté que nous devons avoir et qui est fondamentalement nôtre, afin que nous puissions observer les commandements de Dieu et ne plus, par nos péchés, empêcher ce qui doit venir, c'est-à-dire notre salut, qui doit être manifesté, alors, mes très chers frères, nous devons nous examiner nous-mêmes et, sous un certain rapport, craindre et redouter, non pas que ce grand juge arrive, mais qu'il arrive trop tôt, au moins dans notre vie. Alors que bien des choses cachées dans les ténèbres et bien des desseins des cœurs sont encore enfouis et déguisés à nos propres yeux par des oripeaux de la bonne volonté, alors que ce sont des effets de notre concupiscence cachée. Les effets de la grâce dans l'âme sont inaliénables, c'est-à-dire que ces effets appartiennent à Dieu. L'hypocrisie tant interdite par notre Seigneur et par les moralistes, eh bien l'hypocrisie consiste à utiliser la grâce comme les marins utilisent le vent qu'ils captent dans leur voile pour aller là où ils veulent. Alors les marins font une bonne chose avec le vent, mais nous ferions mal si nous faisions pareil avec la grâce. Ou plutôt, pour prendre un autre exemple, peut-être moins sujet à caution, puisque être marin, c'est avoir un métier légitime, disons que tous ces gens qui jouent avec des grands cerfs-volants, avec toutes sortes de choses, qui se laissent soulever en l'air par une sorte de petits cerfs-volants, que sais-je, et qui risquent à chaque instant leur peau en utilisant les courants d'air pour faire des cabrioles. Eh bien, si nous utilisons la grâce, qui est comme le vent qui souffle là où il veut, si nous l'utilisons pour, en quelque sorte, parvenir à nos propres fins, si nous utilisons même la grâce qui nous est donnée et que nous recevons bien, mais que nous essayons de la maîtriser pour la faire servir à nos projets, à nos ambitions, à nos desseins personnels, eh bien, alors Dieu devient, par impossible, le moyen d'une fin créée, ce qui est un sacrilège. C'est-à-dire que c'est ce qui est créé qui est le moyen d'atteindre la fin que Dieu, le Créateur, s'est proposée. Et ça s'appelle le salut pour la créature qui participe à cette réalisation. Maintenant, lorsque nous utilisons la grâce de Dieu, lorsque nous utilisons les lumières de la religion, lorsque nous utilisons la piété pour parvenir à nos propres fins, fussent-elles moins mauvaises que celles qu'un gros pécheur pourrait se proposer, nous commettons un sacrilège. Que chacun s'examine soi-même pour voir s'il est dans la foi. Le grand juge vient, nous l'appelons à grands cris, nous lui disons exactement ce qu'il doit faire, non pas comme s'il ne le savait pas, mais parce que nous désirons nous soumettre à la marche à suivre, en quelque sorte, à l'ordre de son avènement. Maintenant, mettons-nous en accord avec ce grand juge afin qu'il ne nous juge pas et ne nous condamne pas à la fin. Ce sont nos péchés qui entravent notre salut, ce qu'arrête nos péchés, nous fait dire l'oraison. N'envisageons, mes frères, n'envisageons nos péchés et leurs causes, qui sont leurs racines, les vices, les passions, n'envisageons nos péchés, mes très chers frères, qu'en termes d'obstacles à notre salut. Ne disons pas, il faut que j'évite tel péché parce que ce n'est pas bien, parce que ce n'est pas dit d'un chrétien. Ce sont des choses qui sont vraies, mais c'est trop partiel. Aujourd'hui, alors que notre Seigneur va bientôt arriver, n'envisageons plus nos péchés qu'en termes d'obstacles à notre salut. Le pécheur amasse sur sa tête un trésor de colère aussi sûrement que le juste amasse au ciel, dans un lieu où les voleurs ne percent pas, la teigne ne dévore pas, etc., la rouille ne ronge pas, un trésor de miséricorde, un trésor de mérite. Si nous n'amassons pas un trésor de mérite, et je ne vous cache pas qu'il est très difficile, spécialement à notre époque, d'amasser un trésor de mérite, parce que beaucoup ont des œuvres, les œuvres de la piété, mais ne commencent pas par être dans l'ordre qui permet la vraie piété, je le répète, eh bien, beaucoup croient amasser sur leur, au ciel un trésor de mérite qui n'amasse sur leur tête qu'un trésor de colère. Bien sûr, il y en a qui amassent un trésor de colère par le fait de commettre des péchés très grossiers, mais d'autres commettent des péchés très subtils. Des péchés si subtils qu'ils laissent supposer à ces gens-là qu'ils sont encore en état de grâce et capables de faire des actes, les actes suprêmes de la religion, qui plaisent à Dieu. Comme par exemple, célébrer le Saint-Sacrifice ou participer au Saint-Sacrifice. Et c'est pour cela qu'il y a quelque chose sur laquelle une façon de parler, enfin une tournure de phrase sur laquelle j'attire votre attention, qui se trouve dans l'oraison secrète. Daignez Seigneur, jeter un regard apaisé sur le présent sacrifice et le faire servir à notre progrès spirituel et à notre salut. Sacrificis presentibus que sumus domine placatus intende. Regardez avec un regard apaisé, c'est-à-dire un regard qui n'est pas en colère. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on peut offrir à Dieu le saint sacrifice de la messe et n'être regardé par lui que d'un œil courroucé. On peut assister et participer par association à l'action du prêtre au saint sacrifice de la messe et n'être regardé par Dieu que d'un œil courroucé. Vous allez dire, mais je ne commets pas le sacrilège, je ne suis pas en état de péché mortel, tout va bien, je ne suis pas un hérétique, j'ai peut-être quelques faiblesses, mais enfin bon, tout ceci est en cours de réparation. Si c'est vraiment le cas, c'est très bien, mes très chers frères. Mais ne nous imaginons pas que dans la mesure où il nous semble à nous subjectivement, quand bien même ce serait sur la foi de tel ou tel catéchisme que nous aurions lu et plus ou moins compris, si nous pouvons très bien être dans un état où nous nous imaginons offrir à Dieu un sacrifice et nous ne prenons pas conscience que son regard est loin d'être apaisé. Dieu peut très bien regarder le saint sacrifice de la messe, non pas tel que le Christ lui offre, mais tel que les hommes, les chrétiens les lui offrent, avec un regard qui n'est pas apaisé. Un hérétique qui serait validement ordonné, qui dirait la messe, Dieu ne regarde pas son sacrifice, le sacrifice qu'il offre, lui, avec un regard apaisé. Un chrétien qui est rempli de lui-même, qui est dans le désordre, et qui très pieusement, après s'être confessé, assiste à la messe, il participe et est associé à l'action du prêtre, comme vous le savez, qui est affirmé à plusieurs reprises. Assister à la messe, c'est véritablement participer en la personne du prêtre au sacrifice. Eh bien, mes très chers frères, ce sacrifice si auguste, qui n'est autre que le sacrifice même du Christ, nous demandons l'Église, et ce n'est pas que la seule fois, si c'était la seule fois, ça serait suffisant. L'Église nous fait demander à Dieu qu'il le regarde, notre sacrifice, avec un regard apaisé, ce qui n'est pas évident à obtenir. Ne pensons pas simplement au péché de sacrilège grossier, pensons aussi au mauvais usage de la grâce. Pensons à toutes ces messes qui sont célébrées à titre de manifestation, à titre de réaction, à titre de protestation. Je ne jette pas la pierre. Je dis que, outre le fait qu'ils ne sont pas de la bonne religion, Dieu ne pourrait même pas, si jamais elles étaient célébrées par un prêtre de la vraie religion, elles ne pourraient pas être regardées par Dieu d'un œil qui ne serait pas un œil courroucé. Attention au désordre structurel, encore une fois. Toutes les messes qu'on dit non nunacum ne sont pas forcément regardées avec Dieu d'un œil qui d'un œil apaisé. Et que Dieu nous garde de commettre de telles choses, de telle sorte que Dieu soit obligé de nous regarder d'un œil courroucé. C'est pour ça que tous nous prions que c'est ça, que ce sacrifice que nous vous offrons soit regardé par vous, Seigneur, d'un œil apaisé, d'un œil qui nous regarde et qui se plaît à nous regarder. Écoutez ce que dit le graduel, le Seigneur est proche, et il est proche de quiconque l'invoque en sincérité, avec sincérité. Le Seigneur est proche, il est bientôt là, c'est bientôt la fête de Noël, c'est bientôt aussi le jour, le grand jour du retour de notre Seigneur, nul ne connaît l'heure, le jour ou l'heure, mais nous savons qu'il n'est plus très très loin. Nous le subodorons. Le Seigneur est proche, mais notre Dieu est un feu dévorant, dit l'Écriture sainte. Il est proche, et quiconque s'approche imprudemment d'un feu dévorant sera brûlé. Le Seigneur est proche, c'est un feu dévorant que rien n'arrête. Mais il est proche de celui qui l'invoque avec sincérité. Ce sera le moyen d'éprouver ce feu qui s'approche de nous sous la forme de la grande force dont nous parlions tout à l'heure, grande force salvifique. Le seul moyen d'éprouver ce feu et de ne pas d'être purifié par lui et de ne pas être brûlé par lui, eh bien, mes très chers frères, c'est de se jeter avec sincérité, c'est de l'approcher avec sincérité, c'est de se jeter dans l'esprit de pénitence. C'est se jeter dans la pratique de la pénitence, dans l'esprit de pénitence. C'est pour cela que Saint Jean-Baptiste, dans l'évangile d'aujourd'hui, dit « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, c'est la mortification de l'orgueil, ce qui est tortueux sera redressé, c'est la rectification de la mauvaise volonté, et ce qui est raboteux sera aplani. C'est toute la peine que nous prenons à faire les bonnes actions, les bonnes œuvres. Prévenez, mes très chers frères, prévenez le grand jour du Seigneur par la pratique de la pénitence. Prévenons le grand jour du Seigneur par la pratique de la pénitence. Rectifions tout ce qui est en nous, tout ce qui est en nous s'oppose à la grâce. Je l'ai dit, le désordre, la rébellion, l'orgueil, l'amour propre, mais aussi la nonchalance, la paresse, la torpeur, l'attachement positif au péché, l'attachement positif à nos passions dominantes, le manque d'action prise pour nous vaincre nous-mêmes, avec l'aide de la grâce de Dieu. Nous disions tout à l'heure à Dieu dans l'oraison, « Hâtez, venez hâter par votre grâce ce qu'arrêtent nos péchés. » Pour hâter notre salut, c'est-à-dire pour hâter entre-temps cette délivrance de la tyrannie de soi-même, pour hâter notre salut, mes très chers frères, écrions-nous avec l'Église, écrions-nous le verset alléluiatique, « Venez Seigneur et ne tardez plus, pardonnez les crimes d'Israël, votre peuple. » Venez Seigneur et ne tardez plus, pardonnez les crimes d'Israël, votre peuple. Voilà la prière que nous devons faire retentir dans notre bouche et dans notre cœur jusqu'à la fête de Noël. Et toute chair verra le salut du Seigneur. Mes très chers frères, préparons-nous à ce jour grand et terrifiant, préparons-nous par l'esprit de pénitence, par la mortification de nous-mêmes, la mortification de l'amour propre, la rectification de la mauvaise volonté, en bonne volonté, et demandons à Dieu qu'il hâte ce que nos péchés entravent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.